Avec Charline Vanhoenacker qui me rejoint tout à l'heure et Daphné Burki, on vous propose le mag de la grande matinale, une heure de culture, d'humour et de débat de société. Charline reviendra sur les licenciements massifs au Washington Post. Daphné vous présentera un historien de la mode et pourquoi pas, à 9h30, vous retrouverez le débat du jour. En ce moment se tient le procès des hommes qui auraient poussé à l'assassinat de Samuel Paty. Les propos d'un de leurs avocats ont déclenché une tempête d'indignation. Alors je pose la question ce matin, les avocats de la défense ont-ils tous les droits? On en discutera. Mais tout de suite, une histoire vraie dans le grand portrait.
France Inter. La grande matinale. Sonia De Villers.
L'Amérique ne fait plus vraiment rêver les gosses. Ils ont les yeux rivés sur l'Asie, le Japon, la Corée. Sauf quand il s'agit de la NBA, la ligue de basket nord-américaine dans laquelle évoluent bien plus que des joueurs, des superstars, des demi-dieux, en un mot, des légendes. Imaginez deux petits basketteurs plus ou moins ratés, franchouillards et fauchés, qui veulent en être. Eux, ils se voient agents de joueurs. Partis de rien, ils traînent leur guêtre sur tous les terrains, endettés. Mais entêtés, ils n'ont rien lâché et à la fin, ça a marché. Leurs jeunes recrues sont rentrées une à une à la NBA. Le film qui raconte cette success story va faire un carton. Tout le monde le prédit. En attendant, je ne reçois pas les acteurs, mais les vrais de vrais, ceux que tout le métier appelle Jérémy et Bouna, les agents des basketteurs français de la NBA, les agents du futur plus grand des plus grands, Victor Wembanyama, portrait numéro 87. Jérémy Medjana, bonjour.
Bonjour.
Ça va. Il est arrivé à une seconde du direct.
Au buzzer, comme on dit au basket.
Au buzzer, exactement, il s'est fait peur. Bouna Ndiaye, bonjour.
Bonjour.
Voilà, lui tenait la baraque. Mais c'est un peu ça votre histoire à tous les deux, non?
Oui, c'est l'histoire d'amitié et de pugnacité, de complémentarité.
C'est ça, mais c'est quand même l'histoire de Bouna, en tout cas c'est ce qui est dit dans le film Le rêve américain qui est signé Anthony Marciano. C'est l'histoire d'un Bouna qui s'est toujours levé très tôt.
ça change pas, on n'a pas le choix. De toute manière, quand on vient de nulle part, ouais, on est obligé de faire des efforts supplémentaires. Et il n'y a pas autre chose que de se lever tôt pour rattraper le temps perdu.
C'est ça, voilà. Le film avec Raphaël Quenard qui interprète votre rôle, Jérémy, et Jean-Pascal Zadi qui interprète votre rôle, Bouna. J'ai retrouvé un reportage, mais tellement vintage, sur ce concours de dunk. Vous nous raconterez ce que c'est qu'un dunk.
C'est peut-être ce qu'il y a de plus beau au point de vue dunk. On ne parle pas de trampoline, au point de vue dunk pur en France, voire en Europe, voire dans le monde entier.
Je crois qu'on est prêt pour la Slam Nation. Enter again. Revenez la Slam Nation. À vous pour le final.
La Slam Nation, vous allez nous dire ce que c'est. Simplement d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un dunk, Bouna?
Un dunk, en fait, c'est l'action la plus spectaculaire du basket. C'est quand on met la balle dans le panier très fort, et c'est artistique, c'est émouvant, c'est excitant, et c'est vraiment le show du basket.
Et 40 ans après, vous aimez toujours ça, les dunks, Jérémy?
Ah oui, toujours.
C'est toujours des frissons?
Toujours des frissons, toujours, ça nous fait toujours sauter de notre siège.
C'est vrai, oui. C'est vrai. Je voudrais que vous racontiez tous les deux d'où vous venez, parce qu'en réalité, c'est l'amitié folle et très solide entre deux petits gars que rien ne rapprochait, qui n'avaient aucune culture en commun, à part cet amour du basket. Jérémy, vous êtes
exactement
le ch'ti.
Ouais, je suis originaire de Saint-Amand-les-Eaux et j'ai commencé le basket à 13 ans parce que j'ai un de mes voisins qui m'a emmené au basket et ça a été le coup de foudre. Et on s'est rencontrés donc quelques années plus tard, j'avais 20 ans, quand je suis allé à Menton en vacances une semaine, invité par un ami coéquipier. 18 ans, pardon, j'avais 18 ans. Et en fait, on s'est rencontrés sur le terrain de basket parce que la journée, on l'a passé à la plage. Et par hasard, on avait besoin de jouer au basket tous les jours, c'était vital. Et on s'est retrouvés sur le même terrain, le seul terrain à Menton avec Bouna.
Bouna?
Donc moi, je suis du Sénégal et j'ai grandi à Grigny-la-Grande-Borde. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui nous séparaient, mais on avait plein de choses en commun. Cette passion du basket, on aimait le basket à mourir.
Et à mourir.
Oui, on aimait le basket plus que tout. Et on avait une deuxième chose, c'est qu'on avait envie de devenir les meilleurs joueurs de basket au monde. On voulait être Michael Jordan, mais on n'avait pas le niveau.
Qui était, voilà, qui était l'idole absolue.
Surtout moi, parce que Bouna était plutôt pas mal.
Était meilleur.
Ah oui.
Ouais, mais pas Michael Jordan quand même, faut être réaliste.
Je pense qu'il faut se replonger dans les années 90. Il y a deux choses importantes. D'abord, les Français n'existent pas en NBA, ce championnat qui faisait rêver le monde entier.
Évidemment. Les étrangers tout court.
Les étrangers tout court, Jérémy.
Sonia, excuse-moi de te couper, en fait, les Français n'existaient pas. Et à ce moment-là, on a une vision qui est complètement à côté de la plaque. C'est qu'on voulait s'occuper des meilleurs basketteurs français. Et tout le monde nous prenait pour des fous. Parce qu'à l'époque, le meilleur joueur était américain. Tout le monde nous prenait pour des fous. Aujourd'hui, il y a plus de 25 joueurs français en NBA. C'est la deuxième nation, après, deuxième ou troisième après les États-Unis.
Extrait du film, dialogue entre Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard.
Par contre, il faut qu'on devienne une vraie agence. Ah ouais, qu'on leur paye les taxis, les restos, qu'on investisse dans un staff, un bureau. Ah, comme une vraie agence, quoi. T'en dis quoi ?
J'en dis qu'on va encore s'endetter de fou. Et encore, je te compte pas les frais de draft.
Oui, il y a un risque. Mais dis-toi qu'avec un rosier qu'on draft, s'il joue bien et qu'on arrive à renégocier, c'est parti. Et c'est parti big.
Interview, vie rêvée ou vérité, jusqu'où vous êtes allés dans la galère, tous les deux, pour la créer, cette agence, comme sport, pour la créer de rien, de zéro, absolument de zéro. Le film dure évidemment moins de 2 heures. Vous, c'est plusieurs années, Jérémy.
30 ans.
C'est 30 ans.
Ouais, c'est 3 décennies. Et effectivement, quand on démarre avec Bouna, on part de rien du tout. Et avec juste ce rêve. Et puis Bouna qui me transmet son envie de travailler.
Mais une question centrale qui est l'argent. Une question centrale qui est l'argent. C'est-à-dire qu'en réalité, la question n'est pas tant que vous ne gagnez pas d'argent. C'est qu'il faut de l'argent. Il faut de l'argent pour repérer des joueurs, pour les convaincre. Vous allez nous dire pourquoi. Payer des taxis, payer des restos. Et il faut de l'argent pour atteindre la draft. Bouna, qu'est-ce que c'est que la draft ?
La draft, en fait, c'est les meilleures équipes américaines NBA choisissent chaque année 60 joueurs. Et donc, les 30 premiers ont un contrat garanti. Et donc, la draft, c'est la journée où ces joueurs, en fait, changent leur vie parce qu'ils sont pris par les équipes NBA.
Jérémy, pourquoi ça coûte cher d'emmener un petit Français que personne ne connaît à la draft ?
Ben, encore aujourd'hui, quand on est sur New York, on passe un petit séjour sur New York, le petit déjeuner à New York, c'est 100 dollars. Voilà, donc en fait, c'est un énorme investissement, billets d'avion. Tout ça, à l'époque, pour nous, c'était effectivement beaucoup d'argent. Donc, malheureusement, perdre un joueur avec lequel on pensait capitaliser et se retrouver en redressement pendant 7 ans.
C'est la fameuse trahison qui est au cœur du film. Là, vous avez maquillé le nom du joueur. Parce que je l'ai cherché, le Willy Rozier, il existe pas.
Ouais, en fait, tous les personnages dans ce film sont authentiques, sauf un joueur qui représente en gros toutes nos galères. Parce que nos 30 ans, il y a quand même presque 20 ans de galères. Il faut pas oublier ça. Et on voulait pas faire un règlement de compte, donc on a rassemblé un personnage qui incluait toutes nos galères.
Vous êtes vraiment retrouvé à payer une addition de 37 000 dollars après avoir invité les joueurs à boire un coup de champagne
Et dans le club de Jay-Z.
Ouais, on voulait des joueurs NBA et en même temps on avait 3 joueurs avec les familles, donc c'était 15-20 personnes dans une salle. Après la draft, festoyer, et là on contrôlait plus rien, et à chaque fois qu'il y avait une bouteille qui s'ouvrait, on était en panique.
Donc là, on a le cœur qui se soulevait.
Merci American Express, que l'argent on l'avait pas, et donc c'est passé.
Mais sur l'argent, j'y reviens, c'est-à-dire que il y a Pablo qui est avec moi, qui a 14 ans, qui vient d'un collège de Marseille, qui s'appelle Marseille Vert, et qui passe la semaine avec moi, et je lui ai demandé de préparer une question pour vous. Il a préparé cette question qui est: comment vous vous êtes défait de votre étiquette de banlieusard et de provincial? Et je pense que c'est assez malin comme question, parce que pour ça, il faut afficher des symboles et des signes. C'est ça, les taxis, les restos, la bagnole qu'on conduit?
Il faut une certaine image dans tous les métiers, on va dire, des métiers de service, des métiers de conseil. Donc, en arrivant, il faut qu'on soit crédible. Donc, fatalement, il fallait qu'on ait une image de personnes qui sont un peu au-dessus pour donner des conseils. Voilà, mis à
part
ça.
Le costume?
Le costume aussi, donc la voiture. Mais mis à part ça, il n'y a jamais été question d'argent. Nous, on voulait vivre du basket et on voulait surtout aider les jeunes Français à réaliser leurs rêves. Donc l'argent, c'était vraiment accessoire. Et jusqu'à aujourd'hui, effectivement, on vit très très bien, mais c'est pas ce qui nous lève tous les jours.
Ouais.
Hi. It's for Didier Mbenga? Yeah, we're in New York now for the NBA draft. Yeah, at the moment we see Los Angeles Lakers, we see Chicago, we see all the team, they want Didier, please, please, he's fabulous, he's the best player of the draft.
Excuse me. Please stop. This is embarrassing.
Pour de vrai, vous parliez pas anglais ni l'un ni l'autre. Là, c'est Raphaël Queulard.
Moi, Jérémy. Moi, très très mal. Il est très peu. Bouna le parlait un peu mieux que moi, et c'est pour ça que bon, il a quand même réussi à. Et il est parti aussi s'installer aux États-Unis.
À Dallas.
Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que moi, c'était très compliqué. Et en fait, l'anglais, je l'ai appris effectivement avec une personne étrangère.
Mais est-ce que ça signifie assister à des premiers rounds de négo, avoir rendez-vous avec des gens très importants dans des hôtels et ne pas comprendre? Les chiffres et les montants de la négo pour vous, Jérémy.
Moi, c'était plus compliqué, effectivement. Bouna captait mieux, mais moi, c'est vrai qu'au départ,
mais pas
plus
tout. Fatalement, quand on découvre un monde de fou, la NBA, c'est. Comme tu dis, ça fait rêver tout le monde aujourd'hui, alors que l'Amérique fait moins rêver.
Ouais, l'Amérique fait moins rêver. Elle fait moins rêver la génération de nos gamins, et elle fait moins rêver aussi, là, en ce moment, à cause du Trumpisme. Il reste la NBA, il reste
les gendarmes.
Oui, c'est
la NBA, c'est ça. Ouais.
Donc, fatalement, on apprend. En faisant des erreurs, on apprend avec l'expérience. Et donc, on ne maîtrise pas tout, ça c'est sûr et certain.
Est-ce qu'un agent est forcément méchant ?
Alors nous, on a toujours voulu être nous-mêmes. Donc, après 30 ans, 36 ans, on est toujours les mêmes. Et on n'a pas changé. Moi, j'étais dans le Nord pour l'anniversaire de Jérémy. Et en fait, j'ai vu ses potes que j'avais rencontrés il y a déjà plus de 25 ans, 30 ans. Et les mecs, ils disent, mais putain, c'est incroyable, vous n'avez pas changé. Il y a toujours la même attention. Et là-dessus, on veut rester nous-mêmes.
Mais on veut rester nous-mêmes. Ça signifie que vous êtes dans un milieu de requins, que vous êtes dans un milieu féroce, qu'un joueur qui vous trahit, c'est aussi un joueur que vos concurrents ont été chercher avec les dents, Jérémy ?
Tout le temps, en fait. Tout le temps. En fait, nous, on est arrivés en tant qu'étrangers. Donc, au départ, ils disaient, vous n'avez pas de joueur NBA. Une fois qu'on en a eu un, donc DJ Mega, vous n'avez jamais eu de joueur drafté. Donc, l'année d'après, on a eu 3 joueurs draftés. Et après, c'était toujours, vous n'avez pas eu de contrat, jamais négocié de contrat à plus de 10 millions. Évidemment, on l'a fait. Jamais de contrat à plus de 100 millions et jamais plus de contrat à 200 millions. Et en fait, on a réussi à franchir toutes les étapes au fil du temps. Mais effectivement, ils avaient toujours un argument de dire déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est la seule agence étrangère à s'être imposée en NBA, 100% française. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'agence étrangère qui se sont imposées. En fait, on a été les pionniers aussi à ce niveau-là.
Et l'argument de vous êtes français, vous ne parlez pas l'anglais, vous n'êtes pas d'ici, mais ça, on le vit tous les jours.
Tous les jours ?
Encore aujourd'hui ? Encore aujourd'hui. On a perdu cette année 2 joueurs. Je ne sais pas si ces joueurs, sans notre impact, vont à NBA. Et quelques mois plus tard, pour une raison ou pour une autre, du jour au lendemain, plus rien. Et ça, c'est quelque chose qu'on a appris à digérer.
Plus rien, c'est-à-dire des gens que vous avez...
Goodbye, un petit message ou un coup de fil qui dure 5 secondes.
Et plus rien. Et donc, depuis toutes ces années, on a appris, c'est un peu la vie, les épreuves. Et en fait, ces épreuves-là, elles nous rendent plus fortes. Et on les vit, on pleure, et puis on se lève le lendemain, et puis avec nos femmes qui nous disent « Bon, tu l'as voulu, mets ton énergie sur celui qui a confiance en toi. » Et ça, c'est le support qu'on a eu de notre entourage.
Victor Wembanyama, qui s'est exprimé, on trouve la NBA assez tiède, assez low profile, qui s'est exprimé le lendemain ou quelques jours après un mort supplémentaire à Minneapolis, après la police.
Every day I wake up and see the news and I'm horrified. It's crazy that some people might make it sound like it's acceptable. The murder of civilians is acceptable, you know. It's terrible. I know I'm a foreigner. You know, I live in this country. I am concerned for sure.
Là, il dit, comme vous, Bouna, exactement ce que vous dites. Je suis un étranger. Je vis dans ce pays et pourtant je me sens concerné. Je me sens concerné tous les jours par ce qui se passe. J'aimerais que vous nous parliez de Victor Wembanyama. D'abord, lequel de vous deux l'a vu jouer en premier, vu de ses yeux, vu.
C'est moi, oui, parce que c'est souvent moi qui suis sur, les terrains pour recruter les jeunes joueurs. Mais en fait, j'ai tout fait pour que Bouna vienne le voir assez rapidement et c'était un peu une
Pourquoi
exception. Parce que, en fait, on voit tout de suite que c'est un joueur à part.
Il avait quel âge ?
En fait, quand je le vois la première fois, il a 10 ans, il mesure 1m92. Et quand je commence à le regarder assez régulièrement, il a 13 ans, parce que 10 ans, il faut être aussi sérieux, je veux dire 10 ans, voilà, même si c'est un accompagnement avec les parents, mais à 13 ans, en fait, ils montraient déjà une telle maturité et un tel niveau que j'ai dit à Bouna, tu vas faire une exception. Il n'y a jamais d'agents NBA qui vont aller voir un joueur de 13 ans et même de 18 ans. Ça, ça n'existe pas.
Nicolas Batum, vous l'avez pris en charge, il était très très jeune.
16 ans.
16 ans.
Alors, il est pendant deux ans, il faut que tu y ailles, Et moi, je dis, non, je ne vais absolument pas aller voir un gamin de 12 ans. Et il pousse, on me dit, mais celui-là, c'est le meilleur, ça va être le meilleur de tous les temps. Et à un moment donné, bon, c'est quand même l'un des meilleurs au monde dans le recrutement. Je me suis dit,
Jérémy.
Je vais le voir. Ouais, Jérémy. Et donc, je me suis dit, je vais aller voir ce gamin. Je suis pas à l'aise. Je rentre dans le gymnase le dimanche, un petit gymnase parisien, à Charenton. Et je suis pas très bien, l'agent NBA qui vient voir un gamin de 13 ans. Moi, ça m'aurait pas plu en tant que parent.
Ouais. Voilà. De voir les prédateurs qui rôdent.
Ah bah oui, à 13 ans. Ouais. Donc, je rentre, je suis pas très à l'aise. Je préviens la maman.
Attendez, ça veut dire, Jérémy, que vous étiez le seul à l'avoir repéré?
Alors, le seul, en tout cas, je pense que je suis certainement l'agent qui s'est intéressé à lui en premier.
Ouais. Bouna, vous avez été voir
sa
maman.
Donc, j'étais voir sa maman parce que je la connaissais en lui disant, écoute, je viens juste voir Victor, juste pour avoir un feeling. Voilà. Donc, je la préviens quand même parce que je ne suis pas à l'aise. Et quand je le vois, je vois aussi qu'il y a un potentiel illimité. Le joueur, il a tout, quoi. Mais il y a quand même des problèmes sur lesquels il faut anticiper au niveau de sa taille, de ses pieds, etc. Et là, on a acquis une expérience très, très grande sur les grands gabarits depuis 30 ans.
Il va devenir plus qu'un grand joueur. Il va devenir une légende. Il va devenir une star. Et ça, vous êtes à la manœuvre, tous les deux. Non, votre objectif, c'est d'en faire bien plus qu'un champion.
Il y a déjà lui, son profil, bon, non seulement l'ADN, bon, il a quelque chose, hein, et il a
l'alien, voilà, il est surnommé. Ouais.
Voilà, mais en même temps, il y a une caractéristique, c'est que il a un cerveau en place. Il est, pour moi, c'est quelqu'un de très intelligent et surtout il est déterminé. Et dans sa vie, il n'y a pas beaucoup de parasites.
Et quand il prend la parole, assez courageusement, sur la politique aux États-Unis, vous qui êtes ses agents, vous le dissuadez? Vous lui dites c'est mauvais pour les sponsors?
Non, absolument pas. On pense que chaque athlète, surtout d'une certaine réputation, a une voix. Et il est important que ces athlètes utilisent cette voix, mais à bon escient.
Et voilà. Puis concernant les sponsors, en fait, il a refusé et on était en phase là-dessus. Par exemple, une très grande marque, une multinationale qui proposait un énorme contrat pour un soda. Et Victor est droit dans ses bottes. Il dit, moi, je ne bois pas de soda, je ne veux pas faire boire du soda à des gamins. Je ne veux pas, en tout cas, faire la pub de soda. Voilà, c'est un exemple.
Vous croyez qu'il aura sa basket? Sa basket?
Bien
oui,
sûr.
Comme...
C'est oui, évident, c'est évident.
Sa basket Nike. Yes. Bah... Comme Jordan a eu la sienne. Comme non. Michael Jordan a eu la sienne.
Ce qu'on appelle la shoe signature.
Ouais, voilà.
Tout à fait.
Il l'aura.
Et Victor, ça représente un peu tout ce qu'on est. On représente la France et on est tellement fiers de la représenter.
Jérémy Medjana, Bouna Ndiaye, merci tous les deux d'être venus raconter la vraie histoire du rêve américain qui raconte une histoire vraie anyway, même si elle est un peu romancée avec Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadig et qui sort au cinéma. Je pense que vous coproduisez le film, hein, c'est ça?
Oui, le 18, allez-y, parce que ce film, c'est thérapie.
Merci à tous les deux. Vous restez sur France Inter dans un instant.
Merci.
Le débat du jour.
I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, you fool, ain't no chance to win. Why not use your mentality? Get up, wake up to reality. Of you makes me stop just before I begin, because I've got you under my skin, and I like you under my skin.
I've got you under my skin, 1959, Frank Sinatra. Bonheur dans la grande matinale.
Ouais, c'est pas mal,
c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça va aller. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec Charline Vanhoenacker.
Bonjour, la France Inter. Le Washington Post est en difficulté financière. 300 journalistes virés. Ah, si seulement le propriétaire du journal pouvait être milliardaire et mettre des sous. Je prends des cours de théâtre, ça s'entend ou
bien,
pas?
Bien, très bien.
Merci, je poursuis.
Daphné Burki nous rejoint dans un instant avec un historien de la mode. C'est chic ça, non? Allez, il est 9h30 sur France Inter et c'est le débat du jour.
Nombreux étaient les professeurs au sein du collège du Bois d'Aulne à critiquer la méthode pédagogique de Samuel Paty. Voilà, l'estimant discriminante ou discriminatoire, il y a une variation sur le vocabulaire qu'on peut employer, mais discriminant me va très bien.
Vous venez d'entendre les mots d'un avocat, maître Francis Vuillemin, qui a déclenché une tempête. Alors que se tient le procès des hommes qui auraient poussé à l'assassinat de Samuel Paty, le professeur décapité pour avoir montré une caricature de Mahomet, l'un de leurs avocats s'est permis de remettre en cause les méthodes de l'enseignant. Ça a beaucoup stupéfait, beaucoup choqué. Question ce matin donc, un avocat de la défense a-t-il tous les droits? Peut-il tout se permettre, oui ou non, pour sauver son client?
France Inter, la grande matinale, Sonia De Villers.
Et on en débat avec Anne Rosencher. Bonjour Anne.
Bonjour.
Directrice déléguée de la rédaction de L'Express, chroniqueuse bien connue le vendredi matin de France Inter. Et Romain Boulet, bonjour maître.
Bonjour Sonia De Villers.
Avocat et coprésident de l'Association des avocats pénalistes. Samuel Paty a été rappelé, je le rappelle, a été tué par un djihadiste en 2020. Le principal accusé est le prédicateur islamiste Abdelhakim Sefrioui et il a été déjà condamné à 15 ans de réclusion en première instance. Anne Rosencher, vous n'êtes pas la seule journaliste à avoir sursauté et réagi vivement en entendant Maître Vuillemin. Pourquoi ?
Ah bah je vais vous dire tout de suite, mais juste avant, pour répondre à vos termes du débat que vous avez rappelé, est-ce qu'il a le droit de le dire? Oui, il peut le dire. Moi, je me méfie des pulsions illibérales, y compris quand elles viennent de mon propre camp. Ouais. Et je ne suis pas pour interdire les idées que je combats. Mais en effet, pourquoi j'ai voulu réagir et je dirais disséquer et combattre pied à pied les propos de Maître Vuillemin, c'est que je pense qu'en dehors de sa stratégie de défense, pour le coup je laisse Maître Boulet nous dire ce qu'il en pense, mais il a, ses propos ont un écho, d'ailleurs propos tenus à l'intérieur et à l'extérieur de la salle d'audience, ont, je pense, une visée, une offensive idéologique, participent d'une guerre culturelle dans laquelle il ne faut pas se laisser faire. Donc, vous l'avez dit, on a entendu un extrait, il a en gros expliqué que, d'abord il a diffamé, je pense, Samuel Paty en disant qu'il avait une attitude discriminante envers ses élèves musulmans parce qu'il avait proposé, pourtant à tous ses élèves, de quitter la salle de classe s'ils avaient peur d'être choqués par les dessins qu'il allait leur montrer. Et il dit, il ose dire à une des collègues du professeur décapité appelé à la barre, il ose lui dire, en gros, s'il n'avait pas montré un de ses dessins particulièrement obscènes et si personne n'avait quitté la classe, nous ne serions pas dans cette salle d'audience aujourd'hui. Ce qui veut dire, Samuel Paty a été décapité des suites de ses propres fautes. Et ça, moi, je dis, ça participe, oui, d'une offensive idéologique très claire qui vise à installer la rengaine que finalement les vraies victimes ne sont pas celles que l'on croit et que Samuel Paty...
Et pour vous, ce qui est très grave, c'est qu'il y a une inversion de l'accusation.
Oui,
une inversion de la faute.
Il y a une fausse logique. Il y a une fausse logique qui serait qu'en vérité Samuel Paty serait mort des suites d'un mauvais cours. On croit rêver et non pas de l'enchaînement qu'on connaît et qui est terrifiant pour tous les professeurs. Une jeune élève qui le diffame, qui n'est même pas en cours, un père qui prend les devants, qui est indigné par avance contre la République qu'il exècre, qui va chercher un prédicateur islamiste, qui mobilise les réseaux sociaux, le buzz prend, immobilise une mosquée.
Et vous comprenez la sœur de Samuel Paty, qui s'appelle Michael Paty, et qui dit « la liberté de la robe n'excuse pas tout », vous la comprenez ?
Oui, une excuse dans le sens où Maître Vuillemin, je pense, là, un comportement extrêmement, pour moi, dommageable pour la société, participe d'un discours qui, à mon avis, nous divise, est un faux discours. Donc, voilà, c'est à lui, après, de se regarder dans sa glace, mais personnellement, je le combats.
Romain Boulet, vous qui êtes avocat, pénaliste et, je l'ai dit, co-président de l'association qui représente votre profession, quand la sœur de Samuel Paty dit dans la presse « la liberté de la robe n'excuse pas tout », vous réagissez comment ?
Je pense qu'il y a une confusion fondamentale qui fausse le raisonnement des uns et des autres, qui est la suivante. Ce qui choque, c'est pas les propos de mon confrère Vuillemin. Ce qui choque, Ce qui choque, c'est ce que dit Sefrioui. Et en fait, ce que dit Sefrioui, il le dit depuis 2020 et il n'y a rien de nouveau. Vuillemin, c'est l'avocat. Et donc l'avocat, il porte la parole de son client. Et ça peut nous choquer, ça peut nous heurter, mais il se trouve qu'un individu qui encourt 30 années de réclusion criminelle parce qu'il est poursuivi pour association de malfaiteurs, ça se défend. Et oui, ça fait du bruit, quelqu'un qui se dit innocent des faits qu'on lui reproche. Donc, aujourd'hui, reprocher à Francis Vuillemin de faire son travail, c'est-à-dire de porter la parole de son client qui est une parole de défense. Nous autres avocats, on a l'habitude, hein, depuis l'Antigone de Sophocle, on nous dit que les messagers mauvais sont toujours bien mal accueillis. Mais finalement, ce qui se joue là, c'est la question de savoir, est-ce qu'une défense, fût-elle désagréable, outrancière, désagréable à vos oreilles et difficilement audible, a encore le droit de s'exprimer ? Ce que fait Francis Vuillemin, c'est le fondement de sa mission. Vous ne pouvez pas, aujourd'hui, en France, considérer qu'une défense doit se taire. Et ce serait beaucoup plus inquiétant de réduire une défense au silence.
Anne Rosenfert n'a pas voulu faire taire la défense.
Non.
Elle critique pied à pied les arguments d'un avocat qui, en dehors du prétoire, est devant un mur de micros et de caméras et dit « discriminant ou discriminatoire ?» Les deux me vont, mais je préfère discriminant. Il dit « je », l'avocat.
Non, mais il dit « je » parce qu'il porte la parole de son client. Il faut bien comprendre ce qui se joue là devant une cour d'assises, et il n'a échappé à personne qu'effectivement une cour d'assises est réunie, qu'une cour d'assises en appel va statuer sur la responsabilité des uns et des autres. C'est donc à la cour d'assises qui va rendre un arrêt au nom du peuple français de déterminer si des arguments sont recevables ou pas. La seule sanction qui doit s'attacher aux propos d'un avocat lorsqu'il est dans sa mission de défense, et ne vous en déplaise, Francis Vuillemin est dans sa mission de défense lorsqu'il fait ses déclarations, c'est la sanction qui sera prononcée in fine par la cour d'assises. Et cette sanction, elle se compte en années de prison. Donc, ne vous inquiétez pas, si ces propos sont considérés comme irrecevables, si ces propos sont considérés comme inappropriés, il sera condamné à une peine d'emprisonnement. En première instance, il a été condamné à 15 années de réclusion de criminel. Force est de constater que ça n'a pas fonctionné.
Mmh. Anne Rosenchair, c'est pas ça dont vous parlez.
Non, pas du tout. Moi, je ne réclame absolument aucune sanction contre Maître Vuillemin. Je ne me prononce pas sur la pertinence de sa stratégie de défense. J'ai des grands doutes.
Vous vous dites, tout ça a une portée politique, donc il y a une responsabilité morale et politique dans les propos de l'avocat.
En tout cas, nous avons une responsabilité en tant que débatteurs, en tant que citoyens, de ne pas être dupes de l'écho que peuvent avoir ces propos. Les avocats sont des avocats, sont des professionnels, mais les grands procès ont un écho de tout temps, ont toujours eu un écho dans la société. On l'oublie parce que Dreyfus, quand on parle de l'affaire Dreyfus, on parle beaucoup des intellectuels, etc. Mais les procès en eux-mêmes ont eu un écho, mais international, et je pèse mes mots, le procès en révision de l'affaire Dreyfus à Rennes en 1899, il y a 300 accréditations presse, dont 9 en Allemagne, 7 en Russie, les États-Unis, etc. Bobigny, plus récemment, Charlie Hebdo, tout ça sont des caisses de résonance de nos débats, et les avocats qui portent en effet la parole de leur défense, alors après, j'imagine qu'il y a plusieurs façons de défendre son client. Il y a épouser totalement son discours idéologique ou de faire autre chose, l'amener à faire autre chose. Je ne sais pas, ça c'est Romain une Boulay, tambouille c'est... d'avocat, mais il ne faut pas être dupe
vous
de l'écho de ça dans la société.
Romain Boulay, vous entendez un député, François Ruffin, parler de l'infâme défense du bourreau à propos de ce procès. Est-ce que vous entendez votre confrère, Maître Vuillemin, dire « un procès est un champ de bataille » ? Je vous pose la question, est-ce qu'un procès est un champ de bataille ?
Un procès est un champ de bataille qui ne doit avoir d'autre écho que la sanction prononcée à la fin. Je suis parfaitement d'accord avec Madame Rosenchair lorsqu'elle explique que certains procès ont des portées qui dépassent largement la question de la salle d'audience. Je tiens à rappeler précisément que dans certains procès, et notamment certains procès historiques, la parole de la défense au départ a été très mal accueillie. Est-ce que vous vous souvenez ce que le juge d'instruction dit à la cliente de Gisèle Halimi lorsqu'elle rentre dans le bureau et qu'elle lui dit « Est-ce que vous reconnaissez les faits ?» Elle explique qu'elle n'est pas coupable et que c'est la loi qui est coupable. Le juge d'instruction lui dit « Taisez-vous, je vous ordonne de vous taire, sinon je vous poursuis pour outrage à magistrat. » Il faut qu'on admette, en France, aujourd'hui, qu'une défense puisse s'exprimer, même si cette défense est désagréable. Je veux dire, on est dans un pays où, rassurez-vous, l'accusation a toute sa place. Sur votre antenne, la semaine dernière, le parquet général à 7h50 vient développer ses réquisitions dans le cadre d'un procès en cours.
N'en déplaise, L'affaire Le Pen.
N'en déplaise aux
Madame
politiques...
Madame Le Quillot, c'est ça, qui était invitée de Benjamin Duhamel.
Absolument. N'en déplaise aux politiques démagos, n'en déplaise aux militants idéologues. Aujourd'hui, l'accusation a toute sa place en France et souffrez que la défense existe encore un peu. En France, il faut qu'on admette qu'un homme poursuivi pour une association de malfaiteurs terroristes, avec ses arguments, ce sont ses arguments, et encore une fois, c'est la cour d'assises qui se prononcera in fine, puisse avoir quelque chose à dire. Il faut qu'on admette qu'un homme qui est poursuivi pour viol ose encore dire, devant une cour criminelle, qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés. Il faut qu'on puisse admettre que quelqu'un poursuivi pour un trafic de produits stupéfiants ose dire « je suis innocent de ça ». Si on fait taire la défense, on va en réalité réduire à néant la notion même de justice. Non, tout n'est pas scandaleux et il faut arrêter de considérer que contester une accusation publique aujourd'hui en France serait
Sauf
une agression supplémentaire contre la société ou les
Romain
victimes.
Boulay, il ne me semble pas que toutes les paroles d'avocats déclenchent des levées de boucliers en France
Moi, j'admets tout ce que vous dites. Moi, j'admets tout à fait la parole de la défense. J'admets d'être choquée. Je n'ai aucun problème avec le fait d'être choquée. Néanmoins, il faut admettre en retour que nous ayons le droit de nous exprimer. Et moi, je vais vous dire quelque chose, je le fais particulièrement, même pas forcément pour la mémoire de Samuel Paty, si, entre autres, mais aussi pour les professeurs aujourd'hui. Parce que le corollaire de ce qui va avec les propos de Maître Vuillemin, c'est extrêmement intimidant pour les professeurs. C'est-à-dire qu'il y a un côté, voilà ce qu'il en coûte. Si vous osez continuer de défendre la liberté d'expression, voilà ce qu'il en coûte. C'est de sa faute. Si vous continuez de vouloir prendre les risques d'un
c'est
mauvais buzz...
C'est la fin de ce débat, mais justement, c'est là-dessus que je voudrais faire réagir Romain Boulet, c'est-à-dire que prendre la défense d'un client, quel que soit le crime dont il est accusé, c'est pas une affaire de morale, c'est pas une affaire politique, c'est seulement une affaire de droit. Il n'y a qu'un procès à gagner derrière, il n'y a pas de cause de société, il n'y a rien d'autre qui rentre en jeu.
Mais évidemment, et notamment pour l'avocat, il y a quelque chose de très intime qui se joue au moment où on accepte une défense. Enfin, je veux dire, j'ai un aveu à vous faire, je n'aime pas tous mes clients, il y a même certains clients que je déteste. Il se trouve que si je considère que leur défense est compatible avec le dossier qui est soumis à une cour criminelle, alors je mettrai toute ma force de conviction à leur service pour persuader le juge que leur thèse est la bonne. Mais encore une fois, on a évidemment le droit de critiquer le travail des avocats. Madame Rosenchère a parfaitement le droit de considérer que Maître Villemain est un mauvais avocat. Elle a le droit de dire qu'elle ne le choisira pas comme avocat. Ça va peut-être lui faire de la peine. On ne peut pas aujourd'hui obliger un avocat à se taire, notamment lorsqu'on lui tend des micros et des caméras dans l'enceinte de justice. On n'est évidemment pas dans la salle d'audience. Un avocat ne peut pas tout dire. Il est soumis à un certain nombre de règles. Il y a une immunité judiciaire dans le cadre de l'enceinte judiciaire qui n'est pas totalement la même devant la cour d'assises. C'est le cas de Maître Villemain. Aucune infraction n'a été commise. C'est le propre du débat contradictoire. Et encore une fois, in fine, c'est la cour d'assises qui statuera.
Bah, je vais vous dire un truc. Je trouve cette discussion absolument passionnante. Et je vous en remercie. Anne Rosenchère, on continue de vous lire dans l'Express et de vous écouter sur France Inter. Maître Boulet, merci d'avoir pris la défense des avocats de la défense au micro de France Inter.
Bonne journée.
Bonne journée à vous tous. Et là, on écoute Théodora, évidemment, sur France Inter.
Boy, je m'appelle Natalia. Il me dit je t'aime, il me parle de familia. Il me dit de la marijuana. Si tu veux du stress avec lui, viens voir, oui, y en a. Mais on m'appelle Madame Caillou. Car rebelle et sans cahier, ça compte pas belle, mais sans cahier. Je flexais déjà sans carrière. Ce type non, bah ouais, c'est carré. Comme maman, j'aime les pierres taillées.
Théodora, et vous êtes sur France Inter. Vous êtes sur France Inter, il est 9h46, c'est le mag de la grande matinale. Charline est avec nous, Daphné arrive avec sa nouvelle tête. Mais Charline, d'abord, le Washington Post, on en débattait hier.
Et oui.
À ses micros est exsangue, son propriétaire Jeff Bezos a licencié 300 journalistes.
En rachetant le Washington Post, Jeff Bezos avait promis de ne pas intervenir sur ce qu'écrivent les journalistes. En effet, donc il intervient directement sur les journalistes.
Oui, c'est ça.
Les services des sports, l'international, les pages locales, l'infographie sont supprimées. Il reste qu'un édito rédigé par la Maison Blanche et la météo. Ah non, La météo, ça dégage aussi. Parce que c'était fake news. En gros, il reste l'imprimeur et le mec de l'accueil. Alors, plus de 80% du service international a été licencié. Faut dire que quand on parle des journalistes déployés à l'étranger, on utilise les deux mots que Trump déteste le plus, journaliste et étranger. Certains ont appris en pleine zone de guerre qu'ils étaient virés. Et faut pouvoir imaginer ça quand même. Attends, Charlie, range ton casque, j'ai un scoop pour toi. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? On est virés. Vous imaginez, Sonia? C'est comme si vous vouliez bosser le matin et qu'il manquait la moitié de l'équipe dans le studio. C'est l'angoisse. Enfin, pour moi, c'est une angoisse. Malgré tout, Jeff Bezos reste très attaché à la liberté de la presse. Il laisse aux journalistes la liberté de décider par quels moyens ils vont pouvoir rentrer aux États-Unis. Vous vous rendez compte, Sonia ? Le Washington Post ne prend même pas en charge le rapatriement des correspondants à l'étranger. Le patron d'Amazon ne veut pas payer les frais de port. Eh ben, il fallait souscrire un abonnement Prime si vous vouliez vous faire virer de façon décente. Bezos, son obsession, c'est de pouvoir livrer un aspirateur en moins de 24 heures dans ton salon. Par contre, abandonner un reporter à l'étranger, ça, il s'en fout. Donc, c'est les collègues, eux-mêmes virés parfois, qui doivent créer des cagnottes pour les rapatrier. Et si ça marche, comme la dernière cagnotte à laquelle j'ai participé, ils vont devoir se débrouiller pour rentrer d'Ukraine avec un bon d'achat de la Fnac. Pourtant, Bezos, il fait aussi des cagnottes avec ses amis milliardaires. Mais c'est pour financer la campagne de Donald Trump. Enfin, tout ce que je raconte là, vous le savez déjà, Sonia, puisque c'était donc l'objet de votre débat d'hier. Hein. Vous voyez, ça m'a inspirée. Ce que je voulais encore jamais dit, Sonia, mais je profite qu'on a un petit moment d'intimité, toutes les deux, seules, dans ce studio.
Je suis inspirante.
Pour vous le dire, oui, vous êtes ma muse. Vous êtes ma muse. Alors, on savait que Jeff Bezos se prostituait pour Donald Trump, mais là, c'est quand même la passe la plus chère de l'histoire. Hein. Et encore, il a viré que 300 employés sur 800. Les 500 qui restent, c'est juste pour que Trump ait encore des journalistes à insulter. Il a le droit de se détendre un petit peu après une journée stressante. Heureusement, tout ceci se passe outre-Atlantique et on verrait jamais ça en France. Mais répondez enfin ! Mais enfin, vous voyez bien que j'ai besoin d'être rassurée, Sonia ! J'ai l'impression d'être dans un open space du Washington Post, là ! Un milliardaire qui vire tous les journalistes d'une chaîne ou d'un journal parce qu'ils pensent pas comme lui, c'est complètement imaginable. En France, non ? Si, si, en France, on a connu un milliardaire qui vire tous les journalistes d'un média. Et d'ailleurs, ça se ressent quand on entend Europe 1. Ah, il y a des journalistes à Europe 1 ? Eh ben, qu'ils reprennent le boulot immédiatement, alors.
Il y avait une chaîne aussi qui s'appelait iTélé.
C'est vrai. Conclusion, Bezos a viré 300 journalistes et dans le même temps, il a financé un film sur Melania Trump à hauteur de 75 millions de dollars. Ça se résume en un slogan, Sonia. Moins de faits, plus de fame.
Charline Vanhoenacker.
La grande matinale sur France Inter.
Daphné Burki, elle est là avec
et
sa nouvelle tête.
Il est 9h50, nous sommes dans le studio de la grande matinale de France Inter. Et ce matin, ma nouvelle tête s'appelle Kemaïs Benlagda Reski. Il est historien de la mode, chercheur, enseignant, quelqu'un qui fouille les tissus comme on fouille les archives, qui regarde la haute couture droit dans ses plis pour y lire ce qu'on ne nous a pas toujours raconté. Le colonialisme, la domination, l'appropriation culturelle, mais aussi, et c'est presque le plus beau, l'amour fou des vêtements et de leur histoire. Alors tout d'un coup, le studio se redresse bien évidemment, on ajuste sa veste, on lisse ses manches, et ne me dites pas que l'habit ne fait pas le moine, ça joue énormément sur la crédibilité du sermon et sur la quête qui va avec. Bonjour Kemaïs, bienvenue sur France Inter.
Bonjour et merci beaucoup.
Quand vous vous présentez, vous arrivez en soirée, qu'est-ce que vous dites? Vous faites quoi dans la vie?
Alors je dis, je suis enseignant-chercheur en histoire de la mode et globalement, enfin généralement les gens disent oh, c'est trop cool et je leur réponds ouais c'est trop cool.
Mais c'est des années de travail quand même.
Beaucoup, ouais.
Alors, je vais raconter aux auditeurs. En fait, je suis tombée sur votre travail, Kemaïs, au moment où les débats sur l'appropriation culturelle devenaient parfois violents, parfois caricaturaux, voire complètement brouillons. Et vous êtes peut-être celui qui m'a le mieux expliqué les choses avec calme, avec précision, sans condamnation. Vous vous êtes fait connaître auprès du public avec votre essai « L'appropriation culturelle, histoire, domination et création ». Quand on parle d'appropriation culturelle dans la mode, de quoi est-ce qu'on parle exactement ?
On parle d'un continuum colonial de représentation raciste qu'il faut combattre, principalement. Et on parle en fait d'histoire, on parle pas d'anecdotes créatives, genre un couturier qui fait une sortie de route et qui va piller quelque chose. On parle vraiment d'un système.
Il y en a une qui vous a marqué ?
Ouais, en fait, tout ce qui touche aux cheveux. Les dreadlocks de Marc Jacobs, les perruques de Reika Wakubo. Bref, globalement, à chaque fois que le cheveu est mobilisé dans la mode, ça m'hérisse le poil, on va dire.
On va faire un flashback pour comprendre votre chemin. Enfant, vous écoutiez beaucoup la BO de Sister Act 2. Joyful, joyful Lord, oui. Bah oui, parce que vous baignez pas du tout, enfant, dans l'univers de la mode. Votre mère était gardienne d'immeubles, votre père ouvrier dans le BTP. Il y a tout de même cette image de votre grand-mère paternelle, Zora. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle s'enroulait de la tête aux pieds dans un grand tissu blanc et cru tunisien?
Ouais.
Avant d'aller faire ses courses?
Ouais.
Vous dites que c'est la première fois qu'un vêtement vous a provoqué un sentiment.
Exactement. C'est incroyable. J'étais en Tunisie. J'avais moins de 10 ans. Ma grand-mère paternelle, Zora, elle était habillée souvent traditionnellement. Et pour partir au souk, elle s'enroulait en fait dans un très grand tissu qu'on appelle un sefseli. C'est un tissu rayé, écru, blanc, qui n'a aucune connotation en fait religieuse, c'est vraiment culturel. Donc elle s'enroulait complètement dedans et pour le retenir, elle le mordait. Elle habitait à l'époque dans une impasse. Et donc je sortais avec elle de l'impasse. La rue était en montée et donc je la voyais en fait partir avec son couffin et son énorme... Et ça a été un choc esthétique.
Et aujourd'hui, vous êtes enseignant à la Sorbonne et à l'Institut français de la mode, où vous avez soutenu une thèse qui lie donc la haute couture, le capitalisme et le colonialisme. Qu'est-ce qui a déclenché finalement chez vous cette nécessité de regarder la mode autrement, de poser les vraies questions là où à chaque fois on parle de rêve et de glamour?
Eh ben, c'est précisément à cause de ça que j'ai voulu essayer de creuser un petit peu plus loin, quoi. En gros, c'était en master, je travaillais sur Saint-Laurent et je lisais beaucoup sur Saint-Laurent. Tout était toujours centré sur Saint-Laurent et sur sa gloire et sur son génie créateur. Et on silenciait énormément de choses, les inspirations, tout ça. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que j'avais une expertise à cette époque déjà du costume, disons, traditionnel maghrébin. Et je savais, en fait, les reconnaître, les voir, les analyser. Et à chaque fois qu'on parlait, par exemple, des collections du Maroc ou d'inspiration algérienne de Saint-Laurent, on ne citait jamais les noms, on ne disait jamais rien, et c'était toujours le grand créateur, quoi. Et ça, ça m'a un petit peu énervé, à vrai dire, sur le moment, et j'ai essayé de prendre le contre-pied et de me concentrer, du coup, sur ce qui n'était pas dit.
Vous racontez aussi, plus jeune, que vous rêviez d'être couturier fantasque à la Karl Lagerfeld. Alors évidemment, j'ai envie de vous demander si c'était à refaire l'une de vos chansons favorites.
Si c'était à refaire...
Dalida. Ben oui, parce que si c'était à refaire, qu'est-ce qui devrait changer en priorité dans l'industrie de la mode?
Oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce qui devrait changer en priorité? Tout.
De consulter peut-être des historiens de la mode à chaque fois qu'on crée une collection?
Bah, typiquement, oui. D'autant qu'aujourd'hui, la mode prétend être un fait total, culturel. On a...
Universel.
Universel, oui. Vuitton, sigle des pâtisseries. Je sais pas, moi, Saint-Laurent vend des disques. Chanel finance aussi l'industrie cinématographique. Et Dior, n'en parlons pas. Ils réécrivent l'histoire sans cesse à leur gloire. Moi, ça m'énerve un peu, cette histoire, parce que je me dis que le rôle du directeur artistique, le rôle du couturier, c'est pas d'écrire l'histoire, c'est de faire des vêtements. Et que s'ils veulent écrire l'histoire, eh ben, on est là, en fait, pour les aider.
Vous avez traversé ce qu'on appelle un burn-out militant. C'est rare qu'on en parle. C'est l'épuisement de devoir sans cesse expliquer, contextualiser, pédagogiser, finalement, face à des gens qui veulent parfois tout simplement pas entendre. Ça ouais. Va, vous vous en êtes remis?
Oui. Très clairement. Parce que j'ai une force résiliente assez importante, on va dire. Mais non, mais l'enseignement, pour moi, c'est un sacerdoce. C'est pas simplement qu'un boulot. C'est-à-dire que c'est par l'enseignement que j'ai réussi à prendre de la puissance, je pense, de la confiance aussi. La pédagogie, pour moi, c'est pas simplement être en face d'étudiants et leur déblatérer mon cours, quoi. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus intense et personnel. Et en fait, de devoir répéter sans cesse à des gens qui sont extrêmement hostiles, bon, ça finissait par me provoquer un espèce de brouillard devant les yeux et j'y croyais même plus à ce que je racontais, quoi. Et c'était horrible.
Et c'est revenu.
Ouais, c'est revenu.
Peut-être grâce à une autre voix qui vous accompagne, d'ailleurs.
Oui.
C'est Barbara.
J'ai eu tort, je suis revenue dans cette ville au loin perdue où j'avais passé mon enfance.
Les vêtements ont une mémoire. Un vêtement, c'est jamais neutre, en fait. Il est chargé d'une histoire, de la façon dont il est fabriqué déjà, dont il est transmis, dont il est regardé, dont il est assemblé. On raconte déjà une histoire. Est-ce que bien s'habiller, comme on dit aujourd'hui, c'est aussi apprendre tout simplement à se souvenir?
Ah, waouh, j'adore l'idée.
Ah, ok, ce sera votre prochain cours.
J'aime beaucoup l'idée, en fait, que le vêtement, il soit là pour soigner et qu'il soit là aussi dans quelque chose de l'ordre de la mémoire. C'est très, très beau. Surtout, en fait, lorsque le vêtement est là pour lutter, par exemple, contre des discriminations, pour lutter à des fins, en fait, géopolitiques. Je pense notamment au kéfier. Le kéfier, c'est pas simplement qu'un morceau de tissu, c'est le symbole de l'autodétermination d'un peuple entier. C'est quelque chose qui est tellement... Enfin,
la Palestine, en l'occurrence.
Voilà. Le vêtement, c'est pas simplement qu'un morceau de tissu qu'on vient mettre pour couvrir un corps nu, c'est beaucoup plus que ça.
Je vous ai donné une carte blanche ce matin sur France Inter, juste une minute comme ça pour parler librement de votre amour de la mode. Je ne sais pas ce que vous avez écrit, je le découvre avec vous. Le studio de France Inter est à vous, Kémaïs.
J'ai un rapport étrange au vêtement qui est avant tout mon objet d'étude. En fait, je me considère comme un historien des vêtements. C'est un objet que je sais observer et mettre à distance, sans doute parce que l'intensité que je lui porte peut être déstabilisante. Contrairement aux idées reçues, le vêtement n'a pas d'abord été pour moi un moyen d'expression. Il m'a silencié et mis à l'écart. En arrivant au lycée Condorcet à Paris, j'ai pris conscience que je n'avais pas les bonnes marques. Et le vêtement m'a alors rappelé brutalement mon origine sociale. Un jour, dans la rue, j'ai même porté un jean Levi's 4 fois trop grand qu'un ami de mon père m'avait donné pour savoir ce que ça faisait d'avoir des vagues sur les fesses. Avec du recul, je ressens une grande tendresse pour l'ado que j'étais, qui tentait, avec des fringues mal ajustées, de fitter dans un milieu auquel il n'appartenait pas. C'est plus tard que j'ai pris conscience que le vêtement pouvait aussi être une protection, un rempart, une carapace. J'étais globalement très flamboyant. J'avais des foulards en soie très, peut-être trop, colorés que je nouais en énorme œuf de Pâques autour de mon cou. J'avais des jeans skinny noirs cheap Monday et surtout pour parfaire la tenue des Zizi de chez Repetto, blanches, comme Gainsbourg évidemment, qui avaient failli provoquer la mort cérébrale de mon père qui n'y connaît rien à la mode. Lorsqu'à la question « Tu veux quoi pour ton anniversaire ?», je lui avais répondu « Des Zizi ». Après, il y a eu aussi les plumes, les chapeaux, les bagues à chaque doigt, les bracelets manchettes, les broches, tout plein d'accessoires que je retirais progressivement à mesure que je prenais confiance en moi. Aujourd'hui, j'aime bien l'idée de l'uniforme, d'un vêtement confortable, joyeux, qui me fait plaisir et qui surtout arrête de me silencier. Le vêtement est fait pour parler, pour raconter des histoires, pas pour assigner à résidence. Merci.
Merci, bravo. Kémaïs. Alors, vous pouvez le suivre, encore une fois, sur ses réseaux sociaux. Kémaïs Ben Lagda Rezgi, c'était une joie de vous recevoir aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Et merci, Daphné. Avec Ali Rebéi, on se retrouve juste après les infos. Un mot sur votre sujet.
Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, comment rompre l'isolement et la solitude? N'hésitez pas à témoigner, à poser vos questions au 01 45 24 7000.